Bonjour. Tous les yeux des croyants du monde entier, et même des non-croyants, sont tournés vers une région de la Mésopotamie, l'Irak, le Moyen-Orient, parce que un pape, François, est à Babylone, à Ur, à Bagdad, au berceau de toutes les religions. Le lieu où est parti Abraham, le père de tous les croyants. C'est une région à la stabilité difficile. Mais nous aussi, avec les textes bibliques de l'Exode et de Saint Jean, nous sommes invités à rester justement, à aller d'abord à Babylone, ensuite au Sinaï, terminé à Jérusalem. Tiens, Babylone, là où est le pape actuellement, là où pendant des siècles le code d'Hammurabi était le seul code formel qui fut remplacé par les 10 commandements, les 10 paroles données au mont Sinaï, au peuple hébreu par Moïse. Babylone en Irak, 1750 avant Jésus-Christ, on a découvert une stèle qui est actuellement au musée de Louvre à Paris et qui décrit justement cette règle pour vivre du temps du roi Hammurabi. Oh, c'est lui qui est glorifié. Il dit voilà ce qu'il a fait pour la justice. Et depuis, ce n'est pas un hasard que les tables de la loi, les 10 commandements, soit donné après la sortie d'Égypte du peuple hébreu, parce que cette loi rend libre. Donc il faut se rappeler que ces tables s'adressaient à une communauté qui venait de l'Égypte. Elles affirment finalement leur libération, leur manière nouvelle de vivre ensemble, et donnent accès à la dignité à travers une discipline de vie prescrite. C'est presque un guidage divin qui demande une réciprocité d'alliance entre Dieu et son peuple. Elle est contraire au code même d'Hammurabi qui fortifie l'institution de l'esclavage. Par exemple, le Shabbat abolit un jour par semaine la contrainte du travail sur l'homme. C'est l'abolition faite directement à au Shabbat, au septième jour de la création. Cette loi va s'appliquer pendant des siècles aux hommes libres comme aux esclaves, et qui prend exactement le contre-pied du droit proche-oriental ancien. Qu'est-ce qu'on peut conclure? L'homme ne peut pas jouer avec les personnes et ses commandements. C'est encore l'affirmation de Paul aux Galates où il dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Mais c'est déjà un signe précurseur son temps. Et surtout, la loi est pour tous, égalité. Elle est donnée à tous. Elle est la même pour tous. Elle introduit une autonomie de l'individu qui échappe au pouvoir des hiérarchies. Il n'y a ni individu ni groupe humain qui est favorisé par cette loi. Chaque personne impliquée dans l'alliance est unie directement avec le Dieu législateur. C'était différent de ce qui était vécu du temps à Babylone par l'obéissance à tel roi. Donc la révélation des 10 paroles au Sinaï est un événement fondateur d'une extraordinaire modernité. Si nous rentrons dans le sujet, dans l'analyse, il y a une parole, la première parole n'est pas un commandement, elle se présente. C'est Dieu qui se présente pour faire une alliance avec son peuple. Tu honoreras. Il veut que ce peuple ne soit pas idolâtre, c'est-à-dire dépendre de faux dieux, comme le dieu Baal, ce dieu cananéen, Dieu de l'orage, de la pluie. Il veut éviter d'être l'esclave. Il veut dire que dorénavant, c'est pas pour régler ses angoisses qu'on va respecter, honorer Dieu. Pour régler ses problèmes de pouvoir, de savoir, de sécurité. Mais c'est un jour de liberté, un jour béni, qui favorise l'épanouissement de la vie. C'est ça, c'est le sens qu'il veut donner au mot honorer. Et il y a 4 commandements négatifs pour respecter l'autre, en ne le privant pas de la vie, en respectant ses biens, sans attenter à sa réputation, sans attention au danger du meurtre, de l'adultère, du vol, du mensonge, qu'elle ne prenne pas place dans le cœur de l'homme. D'où ces commandements négatifs. Voilà pour Babylone, voilà pour plutôt maintenant le mont Sinaï, et nous arrivons à Jérusalem. Il en est question dans ce passage de Saint Jean. Et Jésus est très dur avec ce temple de Jérusalem. Pourtant, c'était la maison de Dieu. C'est écrit dans le livre de Isaïe, premier livre des rois, l'Exode. Il y a de colère là, dans la part de Jésus, qui met en l'air tous les étals, j'allais dire, des vendeurs. Mais c'est comme un cri de douleur qu'il éprouve, comme on aime quelqu'un qui est bafoué. Quand ce pourquoi on a sacrifié sa vie n'est pas respecté. Quand les choses les plus importantes sont négligées. C'est de cette colère-là qu'il s'agit sûrement. Par exemple, celle d'un parent qui voit son enfant fuir l'école, ou celle d'un patron qui voit son ouvrier bâcler le travail. Car ces vendeurs étaient utiles à l'entrée du temple. Les parents de Jésus ont dû être heureux de retrouver sur place à acheter les 2 petites colombes pour les offrir pour la présentation de Jésus au temple. Le temple était une zone sacrée. Donc pas d'effigie, pas de pièces, surtout de l'empereur César qui se prenait pour un dieu. Parce que le temple, c'est le lieu d'abord de la rencontre possible entre Dieu et son peuple. Et c'est là qu'il communique sa parole à travers la Torah, la parole de Dieu, la prière communautaire. Et puis c'était le rassemblement des tribus. Mais ce lieu était devenu le lieu où on marchandait la faveur de Dieu. Je te donne autant de sacrifices pour que tu me donnes ceci, cela. Et déjà Isaïe avait dit, n'apportez plus vos offrandes inutiles, c'est pour moi un fumier insupportable, recherchez plutôt le droit et la justice. Et Amos dira que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Alors en fait, Jésus veut renverser les relations qui s'achètent et qui se vendent. Et cela s'est passé au moment de la Pâque des Juifs. Et le thème de la demeure a toujours été, dès le début de l'évangile de Jean, « Où demeures-tu ? » Et Jésus précise sa réponse à la Samaritaine. « Dieu ne se trouvera plus sur la montagne de Samarie ou à Jérusalem, mais on le rencontrera en esprit et en vérité. » Et Jésus dira qu'il est lui-même la vérité. Donc c'est en lui qu'on peut faire cette expérience authentique de la rencontre avec Dieu. Et avec lui, on peut faire une expérience de fraternité. Conclusion, Dieu ne s'achète pas, même pas au prix de la monnaie de la plus pure. Nous sommes sauvés parce que nous recevons. N'oublions pas que tout est grâce. Qui dit cela? C'est Bernard Nors. La maison de Dieu, c'est l'homme. Ne faisons pas de commerce avec lui. Ne vendons pas sa dignité. Ne vendons pas notre cœur, notre âme. Le pape François ne fait que le rappeler. Ce samedi, qu'est-ce qu'il a dit? Les différentes églises à Bagdad sont des fils colorés qui entrelacés forment un unique très beau tapis qui non seulement atteste notre fraternité, mais renvoie également à la source. Dieu lui-même, l'artiste, qui a conçu ce tapis, dit-il, qui l'a tissé avec patience et l'a repris avec soin, en nous voulant entrelacer entre nous comme ses fils et ses filles. Ces nœuds peuvent être défaits par la grâce, par un amour plus grand. Ils peuvent être aussi guéris par le pardon, par le dialogue fraternel. Ça, c'est adressé aux diplomates, aux autorités religieuses. Il a dit assez de violence, assez d'extrémisme, de faction, d'intolérance. Allez, je termine. Où en sommes-nous des 10 paroles aujourd'hui? Où en est l'esprit du droit de la justice sur notre planète, ainsi que le respect de tout être humain? Benoît XVI disait, l'Église est le lieu où Dieu arrive à nous et où nous partons vers lui. Voilà, l'Église, le temple, c'est nous, notre corps, le temple de la miséricorde. Et qui tente de mettre quoi que ce soit à la place de Dieu, se voit chassé de l'espace de Dieu. Pas besoin d'un coup de fouet pour cela. C'est la parole de Dieu qui est ce coup de fouet aujourd'hui. Pour que nous puissions revenir à cette sphère, ce temple, le meilleur de nous-mêmes où Dieu se fait proche. Osons inviter à purifier tous les temples de notre vie, de nos vies. Nos temples intérieurs, bien sûr, comme celui de l'Église qui en a besoin. Tout amour a besoin de la loi. La loi du Seigneur redonne vie, nous dit le psaume 18. Ça sera mon dernier mot. Le commandement du Seigneur est limpide et clarifie le regard. Amen.